Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Il y a une dizaine de films à l'affiche cette semaine, une dizaine de nouveautés, Les Enfants des Autres, Don't Worry Darling, Juste Sous Vos Yeux, Une Belle Course, la dernière nuit de Lise Broholm, Coati, Libre Garance, Ninja Baby, L'Ombre de Goya par Jean-Claude Carrière, et puis même si on peut y ajouter deux films d'animation, Le Chameau et Le Meunier, et Les Secrets de mon père au cinéaste, les deux, mais ils n'ont droit à des séances que les jours où les enfants peuvent aller voir les films, c'est-à-dire le mercredi, le samedi et le dimanche. Avant de commencer notre semaine cinématographique, un petit titre que l'on entend dans le film Une Belle Course, c'est Etta James, At Last. C'est quelque chose qui est très connu sur Radio Alpa 7.3 FM Le Mans. Etta James, At Last, on entend ce titre dans le film Une Belle Course, et on entend d'autres titres des années 50 dans ce film-là.
Ouais, ça devrait être 60 pour Etta James.
Ouais, ouais,
ouais, bon, aux alentours.
D'accord. Oui. Alors, on commence notre semaine cinématographique avec Les Enfants des Autres. Les Enfants des Autres, c'est un film français de Rebecca Slutowski. La durée, 1h43. Le film est proposé aux cinéastes avec deux séances par jour et au Pâté Quinconce. Rebecca Slutowski, réalisatrice, scénariste, actrice née en 80, on lui doit jusqu'à maintenant 4 longs métrages. En 2010, Belle Épine avec Léa Seydoux et Anaïs de Moustier. 2013, Grand Central avec Léa Seydoux et Tahar Rahim. 2016, c'est Planétarium avec Nathalie Portman, Lily Rose Depp. Et 2019, Une fille facile avec Zaya Dehart et Benoît Magimel. Voilà, le film, donc, durée 1h43. Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie, ses élèves au lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d'Ali, elle s'attache à Leïla, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne et l'aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c'est un risque à prendre. Une revue de presse plutôt élogieuse, mais quelques bémols malgré tout. On commence par Michael Mélinard dans L'Humanité avec ce 5e long métrage. Rebecca Zlotowski signe à la fois un très beau portrait de femme et une histoire d'amour où la bienveillance l'emporte sur la rivalité, où la masculinité accepte sa part féminine et où les archétypes se déconstruisent par un pas de côté. Barbara Théat, le journal du dimanche, on vibre à l'unisson des émotions de Virginie Efira, magnifique de talent et de volupté, tellement vraie que l'on s'identifie immédiatement à elle face à Roche Dizem, la virilité attendrissante. Benjamin Locoge dans Paris Match, il faut tout le talent de Rebecca Zlotowski pour porter à l'écran de manière aussi bouleversante une histoire d'amour contemporaine, certains s'interdisant pathos ou facilité, car avec Les enfants des autres, la cinéaste signe là un grand film sur une génération de femmes pour qui la maternité a longtemps été une injonction. Nicolas Chalère dans Le Hobbes, portrait d'une femme admirable, habitée par l'idée de transmettre, d'exister après elle. Les enfants des autres, beau mélo moderne, ouvre le cinéma de Rebecca Zlotowski à l'émotion et à un possible succès populaire. Éric Neuhoff dans Le Figaro, avec Les enfants des autres, Rebecca Zlotowski signe son meilleur film, saturé de fraîcheur et d'intelligence. Victoria Guérin dans Le Point parle d'un film tout en nuances, Thierry Chaise en première, deux immenses acteurs pour un film majeur, le plus beau de sa réalisatrice, Télé 7 jours, Julien Barcillon. Actrice aussi prolifique que talentueuse, Virginie Efira nous bouleverse avec une nouvelle composition admirable de justesse, de sensibilité et de naturel aussi. Télérama Jacques Maurice, un sujet rarement abordé au cinéma, traité avec une justesse lumineuse par Rebecca Zlotowski. La revue positive, elle est moins positive justement, Aidney O'Neill. Nul doute, le sujet est d'actualité et certaines des réflexions nous toucheront réellement, mais il fallait un scénario moins bavard, plus incisif. Et enfin, dans les cahiers du cinéma, Olivia Cooper à Gian, Rachel semble si bien armée contre le malheur qu'elle laisse le récit orphelin d'un véritable enjeu, en refusant absolument de la victimiser et de puiser dans la manne mélodramatique que constituait sa relation avec Leïla. Rebecca Zlotowski escamote toute intensité émotionnelle et désamorce du même coup le potentiel militant de son histoire. Donc, Les enfants des autres, c'est proposé par le méga CGR. Pas du tout par le méga CGR.
Par le pâté
Quinconce. Oui. Et les cinéastes. Donc, c'est le portrait d'une femme moderne au début de la quarantaine. Rachel, c'est Virginie Efira, radieuse, intense. Et pour de français, ça a son importance parce que ça va permettre de développer une intrigue certes secondaire, mais quand même en rapport avec le titre, puisqu'elle prend sous son aile, sous sa protection, un de ses élèves un peu paumé, en difficulté, donc un enfant des autres, là aussi. Et donc Rachel, eh bien, elle a une vie bien remplie et rencontre Ali. Elle rencontre Ali et c'est l'amour évident entre les deux, mais Ali, ingénieur, est le père divorcé de la petite Leïla, 4 ans, qu'il a en garde alternée, et Rachel se trouve dans la position difficile, malaisante, de la belle-mère. Alors certes, on est à l'opposé de la caricature de la marâtre détestable, mais quand même, eh bien, elle a quand même le cul entre deux chaises. Elle est pleine d'amour pour Leïla, dont elle s'occupe d'ailleurs parfaitement, comme une vraie mère, mais elle n'est pas sa véritable mère, alors que justement, elle-même, Rachel désire avoir un enfant et que l'horloge biologique et son gynéco lui disent qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour cela. Situation d'autant plus difficile pour elle qu'elle apprend que sa petite sœur est elle-même enceinte. Alors pour moi, c'est un magnifique portrait, plein de subtilité dans son écriture, plein d'émotions, servi par une Virginie Efira magnifique, devenue aujourd'hui incontournable dans le cinéma français, qui multiplie les rôles marquants de femmes des années 2020, de femmes d'aujourd'hui. On l'a vu il y a deux semaines dans Revoir Paris, par exemple, et on va le revoir certainement dans pas longtemps dans notre film. Elle multiplie donc les rôles marquants, elle devient une sorte d'icône féminine de son époque, et pas seulement par sa beauté. Alors c'est un film qui évite toute caricature dans la situation pour trouver un ton juste, un ton émouvant de bout en bout. Un film sur le désir de maternité qui devrait toucher toutes les femmes, avant tout, mais ça ne laissera pas les hommes indifférents, loin de là. Mais ça devrait toucher bien sûr davantage les femmes par les questionnements qu'il suscite, les blessures, les failles qu'il montre, l'attachement pour un enfant, le déchirement de le perdre quand la relation cesse avec l'homme que l'on a aimé et qui est le père de cette petite fille. C'est un film magnifique, à la mise en scène élégante qui met le spectateur face à de nombreuses thématiques autour de cette thématique principale des enfants des autres, avec des personnages secondaires qui apportent tous quelque chose à l'ensemble, où les situations ne sont jamais caricaturales, paraissent justes, avec beaucoup de finesse, beaucoup de tact. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je sais que Pierre est moins enthousiaste que moi.
Les enfants des autres. Alors, question, peut-on aujourd'hui faire un film francophone sans Virginie Efira?
Ah oui, ça c'est sûr.
La voilà en effet à nouveau à l'affiche dans un rôle émouvant, après Revoir Paris, que j'ai préféré d'ailleurs, à celui-ci. Certes, la thématique est très intéressante, la famille recomposée, l'adoption de l'enfant de l'autre, l'acceptation ou non de l'enfant vis-à-vis de la nouvelle personne, très d'actualité parce que je crois que, d'après les sondages, nous en sommes à un divorce sur deux mariages.
À peu près, à Paris, en région parisienne, ça c'est sûr.
Près, oui. Mais le scénario n'est pas à la hauteur, ça c'est mon avis, hein. Je le précise.
Oui, non, mais bien sûr.
Il n'est pas à la hauteur du thème abordé, m'a laissé quelque peu sceptique et ennuyé même parfois. Oui, j'ai nettement préféré Virginie dans Revoir Paris, mais on ne peut pas peut-être avoir un film de cette trempe chaque semaine.
Voilà, donc le film s'appelle Les Enfants des Autres, il est proposé par le Pâté Quinconce et par les cinéastes. Don't worry, darling. Cette fois-ci, on part au Maga CGR et au Pâté Quinconce. Dans les deux cas, on a des VF, mais on a aussi de la VO, c'est à souligner. Le Maga CGR se met aussi à faire des films en VO, une séance par jour en général, et donc c'est tout à fait louable. C'est un film de Olivia Wilde. Olivia Wilde, c'est une actrice qu'on a pu voir par exemple dans SOS Fantôme l'Héritage, dans le cas Richard Jewell, dans Seule la vie. Elle avait réalisé auparavant un film pour Netflix en 2020 qui s'appelait Booksmart, sinon c'est son premier film à être sorti sur les grands écrans. Elle est réalisatrice, productrice de ce film et elle est née en 84, Olivia Wilde. Le film dure 2h03, le synopsis ne vous dira pas grand-chose, il est très court. La chronique d'une communauté isolée dans le désert californien en plein cœur des années 50, au sein de laquelle une femme au foyer voit sa vie être chamboulée. Alors là vraiment c'est le minimalisme au niveau du synopsis. Cinématiseur Emmanuel Spalacenta. Le film d'Olivia Wilde se déploie comme un thriller psychologique très moderne, parfois fragile dans sa dramaturgie, mais formellement ébouriffant. Renaud Baronian, le Parisien, scénario délirant, bascule sidérante en cours de film, réalisation brillante, interprétation remarquable, ce grand film de studio en met plein la vue. Constance Jamais dans Le Figaro, la comédienne Olivia Wilde signe un thriller rétro-somptueux qu'elle plante dans une communauté idyllique, mais son scénario est trop transparent. Alors moi, je voudrais vous dire, il n'est pas trop transparent du tout, au contraire. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche. Le scénario manque d'originalité et paraît vain, mais on reste captivé par l'univers visuel et la performance intense de Florence Pugh dans cet OVNI paranoïaque. Là, je suis d'accord avec OVNI paranoïaque. Muriel Joudet, Le Monde, balayant toute idée de vraisemblance et de finesse narrative. Olivia Wilde ne se montre désireuse que d'une chose, profiter de la flamboyance de ses décors pour composer de belles images d'horreur qui tournent à vide. Marie Sauvion dans Télérama, passé l'intrigante première demi-heure, l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde, déjà autrice du mignon Booksmart sur Netflix, se répète, patine sur le sursignifiant et le déjà-vu, quelque part entre The Stepford Wives, Get Out et Matrix. Alors je ne connais pas Stepford Wives. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, donc ce film est proposé au Méga CGR et au Pâté Quinconce, VO et VF. Alors certains vont trouver le film fumeux, hein, on l'a vu, d'autres vertigineux en tout cas. Moi je le trouve original au moins par ses multiples changements de registre. Ça commence comme une sorte de comédie dramatique et ça tourne vite au drame psychologique. Ça se déroule dans les années 50 aux États-Unis dans une sorte d'oasis, petit paradis où vivent des couples heureux et sans soucis. Les maris partent le matin travailler à un mystérieux projet Victory dirigé par un homme charismatique, mi-patron, mi-gourou, tandis que leurs épouses, qui sont des desperate housewives à leur façon, leurs épouses, eh bien, vaquent à leurs activités ménagères et de country club. Parmi ces couples, Parmi ces couples, il y a Alice et Jack, très amoureux, mais depuis quelque temps, des détails bizarres font qu'Alice se pose des questions. Alors, est-elle soupçonneuse ou est-elle parano ? Toujours est-il que le film devient de plus en plus intriguant pour changer totalement de direction à trois quarts d'heure de la fin et basculer dans une nouvelle dimension fantastico-science-fictionnesque. On pense beaucoup à Truman Show, par exemple, hein, le film de Peter Weir. Un film dont on soulignera quand même la direction artistique hyper sophistiquée, décors, costumes, coiffures, couleurs, tout ça c'est très flashy, très années 50. C'est porté par une actrice qui s'appelle Florence Pugh, qui est dans toutes les scènes, qui est impressionnante dans les différents registres qu'elle peut aborder. Femme au foyer, femme en pleine confusion, femme paumée et perturbée, femme qui prend son destin en main. C'est un film qui emprunte, je répète, de nombreuses directions, qui pique la curiosité du spectateur, mais où il faut oublier toute rationalité au bout d'un moment parce que les apparences y sont trompeuses et ça peut finir par dérouter le spectateur qui chercherait à rester cartésien avec le risque de ne rien comprendre tant c'est proprement invraisemblable, ça il faut le reconnaître. Mais si on rentre dans le truc, on peut se laisser aller, reste qu'il y a un vrai suspense, sa résolution peut fasciner ou laisser sur sa fin, c'est une question d'état d'esprit du moment. Moi en général je marche pas trop dans ce genre de truc, mais là j'ai bien marché. En tout cas Olivia Wilde fait preuve d'une réelle ambition dans sa mise en scène. Moi j'ai assez aimé ce film là, mais j'hésiterai à le recommander parce que je pense qu'on peut ne pas rentrer dans le film, ou plutôt rentrer dans le film et puis en sortir quand il change complètement de dimension. Donc je l'ai vu en VO. On peut le voir en VF, mais donc c'est au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Juste sous vos yeux. Alors là, on part au cinéaste. On part avec un film de Hong Sang-soo, réalisateur, scénariste, producteur sud-coréen né en 60. Je ne vais pas vous faire la filmographie d'Hong Sang-soo parce que Hong Sang-soo, c'est un petit peu le Jean-Pierre Mocky sud-coréen. C'est-à-dire qu'il tient plus d'un film par an, pratiquement. Donc, on va juste citer le premier, dont le titre était magnifique, 2003, « Le jour où le cochon est tombé dans le puits ». Ça, ça fascine. Sinon, en 2003, il y avait aussi « La Vierge mise à nu par ses prétendants ». Donc là aussi, un titre très intéressant. Et puis, bah, après, il y a des films, je vous dis, il y en a un à deux par an, à certains moments. Et puis, il a fait tourner Isabelle Huppert, par exemple, en 2013, dans « In Another Country ». On va se contenter des dernières années. En 2018, il retrouve Isabelle Huppert dans un film qui s'appelait « La caméra de Claire ». En 2018, « Grass ». En 2018 également. Donc, vous voyez, trois films dans la même année. « Hotel by the River ». Petite pause, il se calme. 2020, donc 2019, pas de film. « La femme qui s'est enfuie », 2021, introduction. Voilà donc Hong Sang-soo, réalisateur sud-coréen, né en 1960. Son film est proposé par les cinéastes. Attention, il n'y a qu'une seule séance par jour. La durée, 1h25. Sang-ok, une actrice disparue des écrans depuis des années, rencontre un célèbre réalisateur qui lui propose de jouer dans son prochain film. Malgré son désir de revenir sur le devant de la scène, le grave secret qu'elle renferme la rend hésitante. Jean-François Roger dans Le Monde, le cinéaste existentialiste par essence, livre une méditation sur les cycles de la vie, la prise de conscience que chaque vibration de celle-ci serait à la fois contingente et sublime. Bon. Marie-Lou Duponchel, Les Irrecuptibles, juste sous vos yeux, s'écoule, ainsi sans que rien ne vienne perturber son calme, mais avec l'assurance que tout y est essentiel. Luc Chessel dans Libération, cinéma intimiste dans sa fabrication même, modeste mais d'une immense ambition puisqu'il cherche dans ses coordonnées restreintes à capter des mouvements subtils qui confinent à l'illimité. Xavier Le Harper, l'Obs, du concentré de Hong Sang-soo, avec cette fois un épilogue surprenant. Sa mise en scène reconstitue le temps qui passe et qu'on essaie en vain de retenir. Et la fausse banalité des situations trouve sa raison d'être dans le quart d'heure final de cette tragédie sourde. Télérama, Louis Guichard déclare que le film est simple et splendide. Stéphanie Belpech dans le Journal du Dimanche, une petite musique qu'on connaît par cœur, qui s'étire un peu mais conserve son charme. Eh bien, je ne suis pas allé voir, juste sous vos yeux, et Pierre non plus.
Moi non plus.
Ça dure 1h25, bon, oui, mais bon,
oui,
j'ai
passe,
déjà
oui.
vu des films d'Hong Sang-soo, je me suis bien ennuyé, donc...
Il y a des films coréens qui sont bien. Hein.
Ah ben oui, absolument, oui. Surtout dans les polars, je trouve,
mais oui, enfin, oui.
Bon, c'est autre chose. Allez, petite pause musicale, et là je me fais plaisir, et ça tombe bien parce que c'est le titre que l'on entend sur le générique de fin des Enfants des Autres, c'est une chanson qu'on a déjà passée ici, c'est Georges Moustaki,
ah oui.
Qui est Les Eaux de Mar, c'est une adaptation d'un célèbre succès brésilien sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, Les Eaux de Mars.
Ça vient.
J'espère.
Un pas, une pièce. pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre. C'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire. Un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie. C'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit. C'est la neige qui fond, le mystère profond. La promesse de vie, c'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour. Le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond, pas de peine. Et un fin de camino, et un reste de toc, et un poco sozinho. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire.
J'adore les eaux de Mars, Georges Moustaki, c'est le titre qu'on entend sur le générique de fin du film Les Enfants des Autres. Une belle course, cette fois-ci on part au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce pour ce film de Christian Carion, réalisateur, scénariste, acteur, même à l'occasion on est en 63, il a commencé par le court-métrage et puis ensuite des longs-métrages qui passent souvent à la télévision, qui ont été des succès publics. 2001, Une hirondelle a fait le printemps avec Michel Serrault, Mathilde Seigné. 2005, Joyeux Noël avec Guillaume Canet, Diane Kruger et déjà Danny Boone. 2009, L'affaire Farwell avec Guillaume Canet et Mirko Kusturica. 2015, En mai, Fais ce qu'il te plaît avec Olivier Gourmet. 2017, Mon garçon avec Guillaume Canet et Mélanie Nourrand. Et en 2021, le remake par lui-même, My Son, avec James McAvoy et Claire Foy. Voilà la filmographie de Christian Carion. Le film Une belle course dure 1h41. C'est avec Lynn Renault et Danny Boone et Alice Izaz. Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie. Très partagé la revue de presse, Sylvain Maire dans Le Parisien, Lynn Renault et Danny Boone forment un duo attachant que tout oppose au départ dans ce film qui sort ce mercredi. Une belle réussite. Le Figaro, la belle course offre à Aline Renault et Danny Boone un beau tandem de cinéma complice et émouvant. Samuel Douer, Télérama, la belle complicité qui se développe entre les deux personnages et leur interprète fait oublier l'abus de violon. La sobriété va bien à Danny Boone pour une fois dans un rôle dramatique. Et Aline Renault est irrésistible dans l'humour comme dans l'émotion. Stéphane Joby, le journal du dimanche. Le scénario de cette comédie dramatique est sans surprise, les flashbacks lourdeaux et la mise en scène sans éclat, mais l'ensemble fonctionne pourtant joliment par la grâce de son duo embarqué. L'Obs, certes, on a plaisir à retrouver Lynn Renault, charmante nonagénaire qui raconte une vie difficile, mais ce scénario convenu piétine, et le film aussi, pour Inconditionnel du Mélo exclusivement. Olivier de Bruyne dans Les Échos, Christian Carillon met en scène deux pointures du cinéma français, Lynn Renault et Danny Boone, au gré d'un trajet en taxi dans Paris. Malgré quelques scénettes cocasses, le film abuse d'artifices scénaristiques et de surenchères lacrymales. Voilà ce que dit la critique à propos d'Une belle course. C'est une comédie dramatique, extrêmement touchante, et il faudrait être vraiment un cœur vraiment sec pour ne pas essuyer une larme au cours de la projection. Moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai essuyé une petite larme. L'histoire, elle est ultra simple. Charles, c'est un chauffeur de taxi un peu bourru, pas franchement agréable. Bon, bref, c'est un chauffeur de taxi, quoi. Hein. Bon. Bon. Il prend Madeleine, une vieille dame de 92 ans, à bord de son véhicule pour ce qu'on appelle une belle course. C'est l'amener de sa maison à Brie-sur-Marne, qu'elle doit quitter pour une résidence pour personnes âgées à Courbevoie, c'est-à-dire à l'est de Paris, de l'est de Paris à l'ouest de Paris. Tout simplement, une belle course, d'où une traversée d'est en ouest de la région parisienne en passant par la capitale. Mmh. Car la vieille dame demande à Charles de revoir les lieux où elle a vécu depuis sa naissance. Et chemin faisant, eh bien, elle se confie à lui et sous forme de flashback, on découvre ce qu'a été sa vie. Elle raconte son premier amour lumineux, son second beaucoup moins lumineux, lui, et puis la vie avec son fils, voilà. Tout ça au cours de leur périple, eh bien, tous deux vont nouer une véritable relation pleine de bienveillance et de tendresse, chacun faisant part à l'autre de choses intimes, de leurs soucis respectifs. Donc c'est un dispositif ultra simple pour parler de choses banales ou importantes. Importantes parce qu'on ne révélera pas ces dernières, parce que ces dernières font que la vie de Madeleine ne fut pas aussi ordinaire qu'on aurait pu l'imaginer au départ, et on laissera aux spectateurs la possibilité de découvrir ces choses-là importantes. C'est un film extrêmement touchant, où la complicité, l'alchimie, je dirais même, entre Lynn Renault et Danny Boone est évidente, elle est palpable. Lynn Renault, elle est magnifique dans ce qui sera certainement un des deux ou trois rôles marquants de sa longue carrière. Lui, il est formidable d'attention, de prévention, dans un rôle qui n'est pas du tout comique, qui montre l'étendue de son talent, déjà vu d'ailleurs dans le film dont je parlais auparavant, qui s'appelait Joyeux Noël, de Christian Carillon. C'est du cinéma ultra classique, ça j'en conviens, dans sa facture, c'est hyper classique. Les jeunes ne seront peut-être pas concernés par le film, mais au moins, les seniors seront heureux de voir qu'on fait encore des films pour eux. Moi, j'ai énormément été ému par ce film qui parle de la fin de vie avec retenue. Je le recommande chaudement parce que pour moi, c'est une vraie réussite grâce à son duo d'acteurs.
Il y avait pas mal de monde, je suis allé à la première séance mercredi, bon. Il y avait du monde.
Tant mieux.
Alors, Une belle course, fiction ou réalité? En petite partie réalité. En effet, Lynn Renault déclare dans le film avoir 92 ans et elle en a en réalité 94, donc on n'est pas loin du vrai. Ce film, une longue course en taxi à travers Paris et la région parisienne, est souvent entrecoupé de flashbacks, peut-être beaucoup à mon goût quand même, beaucoup de flashbacks, mais néanmoins ces flashbacks nous permettent de découvrir peu à peu la vie antérieure de l'héroïne, une vie très tumultueuse, comme vous pourrez le découvrir ou vous l'avez déjà découvert. C'est là l'intérêt de ce long métrage très touchant, très émouvant, avec non seulement Lynn Renault, mais aussi Danny Boone, très émouvant lui aussi. Ce film est vraiment une belle course, et c'est mon coup de cœur de cette semaine.
Voilà, donc on est d'accord cette fois-ci, tous les deux. Une belle course, Pathé Quinconce, Colisée, méga CGR. La dernière nuit de Lise Broholm, cette fois-ci c'est au cinéaste, c'est un film de Thea Lindeburg, réalisatrice, scénariste, productrice danoise, et c'est son premier long métrage. Le film a droit à deux séances par jour, c'est le coup de cœur de la commission ambassadeur-ambassadrice, qui doit être une des commissions qui programme en partie les films du cinéaste, je suppose. 1h26 pour ce film, on est dans la campagne danoise à la fin du 19e siècle. Lise est née d'une famille luthérienne, rêve des d'émancipation. Mais lorsque sa mère est sur le point d'accoucher, la jeune fille voit sa vie basculer en une nuit. Elle, le journal Elle, déclare que c'est un portrait poignant et puissant que ce film. Luc Chessel dans Libération, la dernière nuit de Lisbro Holm, étonne d'atteindre sans faiblir et par les plus voyants artifices à un premier degré si digne et si libérateur, déchaînant à l'écran force mystique et terreur d'enfance pour mieux affirmer l'athéisme qui va avec son féminisme et quitter son personnage au matin devenu adulte en une nuit. L'Obs, François Forestier. Image solaire suivie de scènes sombres, visage de bonheur transformé en face de malheur, le film est d'une grande maîtrise dans la veine de Dreyer. Carrément, la révélation d'un talent. Le Figaro, Éric Neuhoff, ce premier film brûlant et inspiré ne peut manquer d'évoquer Bergman, avec sa jeune actrice incendiée de l'intérieur. Thomas Borès, en première, la Danoise Thea Lindeburg, qui après la réalisation de plusieurs séries cessées pour la première fois au long métrage, parvient à installer du vertige, là où tout basculement est vécu comme un crime. Sa mise en scène immersive donne à ce drame bergmanien, on reprend le terme Bergman, l'allure d'un puissant survival. Le Monde, avec son 16 mm, le film souffre d'être trop appliqué, embourbé dans son littéralisme et semblant utiliser un roman de 1912 pour y plaquer un regard d'aujourd'hui. 1h26, deux séances par jour au cinéaste et je ne suis pas allé le voir. Voilà, la dernière
vie de
Bro Holm. Coati, c'est un film pour les enfants, c'est un dessin animé de Rodrigo Pérez Castro. Rodrigo Pérez Castro, c'est son premier long-métrage, c'est un réalisateur mexicain. Je ne vais pas vous faire tout le synopsis, parce que le synopsis est très long, et il raconte certainement tout le film en Amérique latine. Une joyeuse bande d'animaux cohabite en harmonie au pays de Xo, au cœur de la forêt tropicale. En marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. La perfide Saina, un serpent manipulateur, profite de la situation désespérée pour s'emparer du pouvoir et inciter tous les animaux à quitter leur forêt, etc., etc. Le film opposé au Pathé Quinconce et Omega CGR. Le Parisien en dit plutôt du bien, film d'animation mexicain, Coati, aborde les thèmes de la solidarité, de la tolérance et de la communauté dans une parabole sur le réchauffement climatique. Ces sujets sont servis par une intrigue pleine de rebondissements portée par un héros très attachant et un vrai personnage de méchant, ainsi que par des dessins luxuriants et magnifiques. Xavier Lerper dans l'Obs, si la mise en scène est un peu sage, le dessin est à l'image du récit, alerte, cocasse, hyper coloré et d'une belle ampleur. Quant aux valeurs politiques et écologiques, elles sont affirmées sans mièvrerie. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, une quête initiatique aux couleurs chatoyantes et pétrie de bons sentiments pour les enfants dès 6 ans. Sylvestre Picard en première, certes, il y a quelques belles idées, les décors splendides, les effets magiques, mais le film n'est pas assez fort pour faire oublier ses inspirations et son ton parfois franchement misogyne. Bon, je ne suis pas allé voir ce film Coati, 1h32, film d'animation, proposé par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. On reste dans le film d'animation, cette fois-ci on part au cinéaste, un programme de 3 courts-métrages qui s'appelle Le Chameau et le Meunier. Donc ce sont 3 courts-métrages, le Robot et le Fermier, Les Oiseaux Blancs, Le Chameau et le Meunier, ça fait en tout 49 minutes. C'est proposé au cinéaste 3 jours dans la semaine, le mercredi, bon ben c'est fait ça, et puis samedi et dimanche. Pour les enfants, à des horaires donc 15h30 le samedi et 11h le dimanche. L'Humanité en dit du bien, en déclarant que Le Chameau et le Meunier, c'est à ne surtout pas manquer. Et la Revue Positive aussi. Ce programme de 3 courts-métrages permet d'admirer de près le travail minutieux et inspiré d'un spécialiste de la stop-motion. Bon, je ne sais pas ce que c'est exactement que la stop-motion, mais peu importe. Voilà, allez, hop, une pause musicale. Cette fois-ci, on part dans les années 60. Ah. Julien Clerc, La Cavalerie, c'est en 1968, ça j'en suis sûr et certain.
Ah, d'accord.
Absolument, je vous expliquerai pourquoi après, peut-être.
Un souvenir, pas. Peut-être
Non, c'est parce que Julien Clerc le dit dans ses interviews.
Il
dit. Il a bénéficié du fait qu'en 1968, France Inter étant en grève, il n'y avait pas de parlotte, il n'y avait que de la musique, et son titre est sorti à ce moment-là, il a été matraqué sur France Inter notamment.
Voilà. D'accord.
Quand je vois les motos sauvages qui traversent nos villages, venues de Californie, de Flandre ou bien de Paris. Quand je vois filer les bolides, les cuirs fauves et les cuivres qui traversent le pays, dans le métal s'éloigne la tourmente, quand retombe la poussière pesante et que sombre le pays dans le sommeil et l'ennui, comme dans les films héroïques aux moments les plus critiques, quand tout coule dans ma vie, quand tout semble compromis. Je prendrai la route, mais ailleurs coûte que coûte, je traverserai la nuit pour rejoindre la cavalerie. J'aurai enfin tous les courages, ce sera mon héritage, et j'abolirai l'ennui dans une nouvelle chevalerie.
La cavalerie, Julien Clerc, elle entend cette chanson dans le film Les Enfants des Autres au cours d'une séquence qui se passe en Camargue. Voilà, Libre Garance, le film proposé par le Colisée. C'est un premier long métrage d'une réalisatrice française qui s'appelle Lisa Diaz, réalisatrice scénariste. Elle avait auparavant réalisé un court métrage et donc c'est son premier long proposé par le Colisée. Ça dure 1h36. C'est l'été 82. Garance a 11 ans et vit dans un hameau reculé des Cévennes où ses parents tentent de mener une vie alternative. Quand deux activistes italiens qu'une banque dans les environs, cela tourne mal. Cet événement vient chambouler la vie de Garance et de sa famille. Véronique Coapé dans Le Monde, saisie à hauteur d'enfant, la politique prend des airs de poésie et emprunte des chemins romanesques. Samuel Douer dans Télérama, c'est un récit d'apprentissage sans surprise, mais particulièrement touchant que propose Lisa Diaz dans son premier long métrage. Nicolas Chalère dans L'Obs, chronique naturaliste, drame à hauteur d'enfant ou conte sur l'héritage politique qu'on laisse aux jeunes générations. Allez savoir, le premier film de Lisa Diaz n'embrasse aucune de ces trois pistes et ne suscite pas le moindre intérêt. On s'ennuie ferme, reste le naturel des gamins de sa jeune actrice, Azou Gardao Petitot, très Charlotte Gainsbourg dans Les Fontés. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, un récit solaire mais maladroit. Thierry Chaise en première. En voulant parler en 96 minutes d'engagement politique, des rapports amoureux d'un couple où chacun s'est engagé à laisser de la liberté à l'autre tout en suivant la sortie de l'enfance de leur fille de 11 ans, la cinéaste reste hélas trop à la surface des choses. Le film est proposé par Le Colisée. Et donc, on est en été, on est dans les Cévennes, on est au début des années 80. Garance est une jeune pré-adolescente et elle vit dans une ferme avec sa famille, des sortes de babacool, comme on disait à l'époque, adepte du retour à la campagne et d'une vie alternative, comme on dit aujourd'hui. Cet été-là, Garance va être confrontée à un événement inattendu, un activiste terroriste, comme vous voulez, des Brigades Rouges, qui viennent participer à un braquage qui est mal tourné, se réfugie près de la ferme des parents de Garance. Voilà, donc ça c'est le début du film, voilà, enfin le début, trois premiers quarts d'heure. C'est un film qui parle d'une époque révolue, celle des idéaux libertaires, voire révolutionnaires d'une certaine classe de la population, avec ses contradictions et puis ses impasses également. C'est un film qui aura sans doute du mal à trouver son public, hein. Ceux qui ont vécu cette situation à l'époque se sont pour la plupart embourgeoisés, et de toute façon ils étaient quand même peu nombreux en fait, hein, faut bien le reconnaître. Peut-être que pour eux, il y aura un parfum de nostalgie en allant voir ce film. L'histoire, elle est vue à travers le regard de cette jeune adolescente ou préadolescente qui ne saisit pas forcément les enjeux et qui vit la situation comme une sorte de jeu dangereux, une sorte d'aventure. Le meilleur du film, mais c'est quand même déjà beaucoup vu, hein, c'est cette vie en liberté à la campagne, sans contrainte, au milieu des animaux et des copains et des copines de son âge, pendant que les parents vivent leur vie selon leurs idéaux, tant bien que mal. Ça, c'est le meilleur du film. Après, l'aspect politique, moi, pas vraiment passionné. Bref, c'est le genre de film qui a surtout fait plaisir à sa réalisatrice, qui est native de la région, et qui aura du mal à toucher un public plus que restreint, à mon avis. Bon, c'est typiquement le film sur lequel on n'a pas grand-chose à dire, en bien ou en mal. Voilà. Ça s'appelle Libre Garance. C'est proposé par le Colisée. Si vous êtes totalement désœuvré, éventuellement, mais il y a quand même des choses à voir qui paraissent plus intéressantes. Bon, voilà. Ninja Baby. Ninja Baby, c'est au cinéaste et c'est un film d'une durée d'une heure 43. C'est réalisé, alors là, Ingvild Svefflicke. Alors, je ne vous garantis pas que je n'ai pas écorché son nom à Ingvild Svefflicke. Réalisatrice, scénariste norvégienne née en 74, qui avait réalisé en 2015 un déjà premier long métrage. Donc, je ne vais pas me lancer dans la prononciation parce que là aussi, c'est du norvégien. Et c'était inédit, en tous les cas, en France. Ninja Baby, astronaute, garde forestière, dessinatrice, Rachel, 23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui de devenir mère. Quand elle découvre qu'elle est enceinte de 6 mois, suite à un coup d'un soir, c'est la cata. C'est décidé. L'adoption est la seule solution. Apparaît alors Ninja Baby, un personnage animé sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie un enfer. Alors, Le Figaro. Mené tambour battant, le film traite joyeusement, mais sans concession ni sensiblerie, d'un thème qui pourtant ne prête pas à la plaisanterie, la maternité non désirée. Thierry Chaise en première, librement adapté d'une BD norvégienne, Ninja Baby, aborde des questions graves, sans se départir d'un ton volontiers provoque, façon Apatow, Judd Apatow, au féminin, dans un équilibre parfait entre fou rire et émotion qui vous saisit sans que l'on ait vu venir. Un bijou pour Thierry Chaise. Télérama, Frédéric Strauss, s'affirmer malgré les jugements, vivre à sa façon l'enfantement, cette fiction est bonne conseillère. Mathieu Victor Pugébé, dans Écran large, Ninja Baby est un petit bonbon doux et sautillant qui se mue en un pamphlet engagé et pertinent. Malheureusement, si la réalisatrice réussit avec sensibilité à poser ses problématiques sans se détacher de ses personnages, la forme du film demeure trop programmatique et déjà vue pour complètement emporter. François Forestier dans l'Obs, longué et maladroit, le film ne trouve jamais son ton entre rigolade libertaire et contrainte sociale. Et franchement, le destin de Raquel, on s'en tape grave. Sandra Onada dans Libération, elle aussi, elle s'en tape. Cela a tout de même le goût d'un malabar déjà mâché. Difficile à apprécier quand on a passé l'âge des premières poussées de féminisme pubertaire. Eh wow. Oui, donc il y en a qui n'ont vraiment pas du tout. Ninja Baby. Voilà, c'est au cinéaste Ninja Baby. Et Ninja Baby a droit à une ou deux séances par jour. Les secrets de mon père, c'est toujours au cinéaste. Et là, c'est un film qui est plutôt pour les enfants, puisqu'il n'a droit qu'à trois séances par jour. Trois séances dans la semaine. C'est un film d'animation proposé samedi à 10h15 et dimanche à 14h30. C'est un film de Vera Belmont. Vera Belmont, c'est une célèbre productrice française, mais aussi réalisatrice, scénariste. Elle a réalisé un film que j'avais adoré, moi, qui s'appelait en 85 Rouge Baiser, qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça, à la télé, avec Charlotte Valandré et Lambert Wilson. 91 Milena, avec Valérie Caprisky, qui est devenue Valérie Caprisky. Non, c'est rien.
Ah, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Ah bon. Je crois qu'elle tourne pour la télé, peut-être, pas pour le cinéma. Oui.
97, Marquise avec Sophie Marceau. Alors que Sophie Marceau avait complètement saboté la promo de Marquise. Elle avait dit qu'elle a le pire mal du film, alors qu'elle était en promo. Marquise, bon, c'est avec Sophie Marceau, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte. Et 2007, Survivre avec les loups avec Guy Bedos et Yael Abécassis. Vera Belmont, donc, ça c'est sa filmographie. Le secret de mon père, ça dure 1h14, c'est un film d'animation dans les années 60, en Belgique. Michel et son frère Charlie vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père, taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères l'imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors, mais que cache-t-il ? Caroline Vier dans 20 minutes, la transmission est au centre d'un récit où l'humour trouve sa place. Marguerite Beau dans Elle, une belle adaptation pensée pour les ados, mais pas édulcorée, en respectant une partition nette entre la narration dessinée à la ligne droite et les images d'archives utilisées avec parcimonie. La Croix, Stéphane Dreyfus, une œuvre à voir pour mieux approcher le tragique de l'histoire. Stéphanie Belpech, ce film d'animation accessible dès 8 ans, se veut pédagogique et émouvant. Cécile Murie dans Télérama, tissée de petits événements et de grandes tragédies. Avec beaucoup de sensibilité, cette chronique est aussi simple et touchante que les dessins colorés qui la composent, traçant un difficile mais nécessaire trait d'union entre générations. Le Figaro, ce joli film pédagogique et attachant, a été conçu pour toucher les enfants, même si son animation est très classique en 2D et elle n'a rien de renversant que cette animation. Thierry Chaise dans Première. Les personnages et les situations sont traités avec subtilité. Dommage que l'animation ne soit pas à la hauteur. Scotché à un registre purement illustratif. 1h15, 1h14 précisément. Les secrets de mon père au cinéaste. Tout comme d'ailleurs le dernier film de notre semaine cinématographique. L'ombre de Goya par Jean-Claude Carrière. C'est un documentaire de José Luis López Linares. José Luis López Linares avait réalisé en 2016 Le mystère Jérôme Bosch. Et fait auparavant des documentaires inédits au cinéma, mais proposés certainement à la télévision. Il est réalisateur, producteur et directeur de la photo, José Luis López Linares. 1h30 pour ce documentaire, proposé avec une séance par jour, en général, aux cinéastes. Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique, montrant à quel point l'œuvre de Goya est influente. Rappel, Jean-Claude Carrière est décédé cette année ou l'an dernier. Adrien Gombeau, Les Échos à la fin de sa vie. Jean-Claude Carrière voyage en Espagne sur les traces de Francisco de Goya. 90 minutes d'intelligence et un magnifique adieu à la vie. François Forestier dans l'Obs. Ce film est un pur plaisir des yeux. On découvre un maître du silence et un génie du noir à voir et à revoir. Éric Bietri-Rivière dans Le Figaro. Dans ce documentaire sur le peintre espagnol, l'écrivain et scénariste est allé en Espagne sur les traces, sur ses traces, les traces de Goya. Et donc c'est sublime. Stéphane Joby dans Le Journal du Dimanche, un dernier voyage qui mêle érudition accessible et émotion naturelle. Les Irrécupérables de Jean-Baptiste Morin, c'est le premier intérêt du film de López Linares, voir, revoir énormément de tableaux, de gravures, de lithographies, de dessins, vraiment beaucoup de Goya. Tous sont magnifiquement filmés et commentés par un homme intelligent, connaisseur, malicieux. Mathieu Macheret, dans Le Monde, entendre Jean-Claude Carrière parler de Goya est un bonheur de chaque instant et offre les meilleurs passages d'un film par ailleurs assez formaté. Écrasé par ces deux géants, la caméra timide s'efface, se contente de suivre et c'est sans doute ce qu'il y avait de mieux à faire. L'ombre de Goya, 1h30, un documentaire proposé par les cinéastes. Voilà, on a passé en revue tous les films et avant de vous annoncer ceux qui sont à l'affiche la semaine prochaine, eh bien, on va vous proposer un dernier titre que l'on entend dans Les Enfants des Autres. C'est Yves Simon. Nous partirons, nous deux. C'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Voilà, Yves Simon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'Yves Simon non plus.
Express pour nulle part, nous prendrons le temps de nous regarder. Nous partirons dans des super jets, des jumbo stars, sur les western lines, nous planerons. Nous partirons. Nous partirons, nous deux. Chevaux nains de Mandchourie, nous cavalerons sur les autoroutes. Nous serons des amants voyageurs, des émigrants. Nous regarderons le monde tourner. Nous partirons. Nous partirons. Ma petite fille, ma tendresse, ma femme d'aventure, nous embarquerons sur des paquebots. dans des gares de rendez-vous, les marchands d'oranges nous regarderont nous embrasser.
Yves Simon, nous partirons nous deux, c'est pas une de ses plus connues chansons, mais on l'entend quand même dans le film Les Enfants des Autres. Alors, qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine, la semaine sous la dent? Alors, on commence par les avant-premières, ça commence dès ce soir, si vous nous écoutez en direct, au Pâté Quinconce, à 22h, il y a l'avant-première de Smile, c'est un film d'horreur qui sortira la semaine d'après. Sinon, alors, lundi soir, le méga CGR à 19h45, c'est Smile, au Pâté Quinconce, c'est Jumeaux, mais pas trop, à 20h20. Mardi, c'est au Pâté Quinconce, il y aura Sans filtre, le film qui a obtenu la Palme d'Or, en version originale à 20h. Et au Méga CGR et au Colisée, ça sera Jumeaux mais pas trop. Si vous suivez, c'est bien. Sinon, le mercredi 28, La guerre des Lulus à 20h30 au Pâté avec l'équipe du film. Je crois qu'il y aura même Alex Lutz qui viendra présenter un film en avant-première. Donc mercredi 28 à 20h30. Mercredi 28, toujours au Pâté, L'Innocent. Alors si vous n'avez pas une idée de ce qu'est L'Innocent, c'est un très très bon film. Moi, je l'ai déjà vu. C'est un excellent film de Louis Garrel. J'ai adoré ce film-là. Il sortira courant octobre. Et puis jeudi, le Pâté Quinconce, Couleur de l'incendie. Il faut savoir que le Pâté Quinconce fait une semaine d'avant-première. Donc tous les soirs, il y aura un film d'avant-première tous les soirs. Et même le samedi après-midi des avant-premières, on en reparlera. Mais sinon, la semaine prochaine, il y aura donc le film Palme d'Or de Cannes, Sans filtre. Moi, je l'ai déjà vu. Je suis assez partagé sur le film. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées.
2h30 en plus, hein.
2h30, 2h29, ouais, ouais. Oui. Smile, bon, voilà, Smile. Maria Rêve,
ah oui, bien ça.
Karine Viard. Ouais. Jumeaux, mais pas trop, donc, avec Ahmed Silla et Bernard Huskla. Le sixième enfant, probablement, avec Sarah Giraudeau, Benjamin Laverne. Vacances, ça c'est sûr. Et puis The Woman King. Woman King, c'est un film spectaculaire, semble-t-il, vu la bande-annonce. Un film américain, féministe, genré, racisé, tout ce que vous voulez. Voilà, cette semaine, eh bien, nous sommes deux à avoir apprécié
une belle course.
Je suis seul à avoir apprécié Les Enfants des Autres.
Ouais, mais je suis sûr que les fans de Virginie Efira iront voir.
Voilà. Eh bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et pour les avant-premières, allez sur les sites des cinémas parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, je risque d'en avoir oublié ou de m'être trompé dans les horaires. Donc, le Pâté Quinconce, des avant-premières quasiment tous les soirs. Et le Méga CGR, des avant-premières également. Et il y aura une semaine d'avant-première aussi au Méga CGR en octobre. Ah, on n'est pas prêt à se coucher de bonne heure à ce moment-là. Bien, allez, sur ces bonnes paroles, excellente semaine cinématographique. À la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM.
Au revoir.